Deuxième épître de Jean.
Lecture de la parole. L'ancien, à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. La grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous de la part de Dieu le Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Or maintenant, ô dame, je te prie non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez, car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde. Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair, celui-là est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que nous recevions un plein salaire. Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. Les enfants de ta sœur élue te saluent.
Lecture de l'étude. Avant d'en venir au détail de cette courte épître, touchons quelques points d'ordre général. Le nom de l'auteur n'est pas mentionné. Ce fait caractérise également la première et la troisième épître, mais dans chaque cas, il n'y a aucun doute que Jean soit l'écrivain. Le style est identique, en accord aussi avec l'évangile qui porte son nom. Il est tout à fait remarquable que Jean ne mentionne jamais son propre nom dans ses écrits, excepté dans l'Apocalypse. Il y a quelque chose de très convenable en cela. Son évangile et ses épîtres traite un sujet si élevé, Dieu révélé en celui qui était le Fils du Père, que l'écrivain humain passe inaperçu dans la gloire de cette lumière. Cette deuxième épître, comme aussi la troisième, est une sorte d'annexe ou de post-scriptum à la première épître. C'est tout d'abord une communication d'ordre privé, faite à une dame chrétienne et à sa famille. Mais Dieu lui a donné une place pour toujours dans les pages de l'Écriture, car elle fournit des instructions très utiles que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est la seule épître adressée à une femme, et ceci donne encore plus de force à l'instruction donnée. Dans les versets 1 et 2, la plus grande emphase possible est mise sur la vérité. L'épître elle-même nous enseigne quant à l'action nécessaire pour la défense de la vérité. La première chose que nous trouvons est que toutes les relations et toutes les affections chrétiennes sont fondées sur la vérité et doivent être gouvernées par celle-ci. L'amour qui caractérise les chrétiens est dans la vérité. Nous avons été engendrés de Dieu et l'amour en jaillit comme le fruit, ainsi que la première épître nous l'a montré. Étant engendrés de Dieu, nous sommes dans le véritable. Et l'amour selon la vérité est produit dans nos cœurs. C'est pourquoi l'amour, tel que Jean le portait à la dame élue et à ses enfants, se trouvait également dans les cœurs de tous ceux qui avaient été amenés à la connaissance de la vérité, ayant été engendrés de Dieu. Mais cet amour n'avait pas seulement son origine dans la connaissance de la vérité, il s'exprimait aussi à cause de la vérité. La vérité est d'une importance capitale, puisque le monde est rempli d'erreurs et d'illusions, et nous devons être prêts à souffrir à cause d'elles. Beaucoup ont souffert, même jusqu'à la mort comme martyrs. Ici, pourtant, il n'est pas question de souffrir à cause de la vérité, mais d'aimer à cause de la vérité. Cela a deux conséquences. D'une part, l'amour doit être sincère et sans la partialité naturelle à la chair. D'autre part, il doit être intolérant vis-à-vis du mal, puisque la vérité et l'erreur ne peuvent jamais s'accorder. La seconde considération est présentée dans cette épître, et la première dans la troisième épître. Les deux affirmations du verset 2 quant à la vérité sont lourdes de sens. Premièrement, la vérité demeure en nous, et deuxièmement, elle sera avec nous à jamais. Nous pouvons relier ces deux pensées à deux déclarations, celle de la première épître, l'Esprit et la vérité, chapitre 5, verset 6.
C'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité.
Et celle de notre Seigneur dans l'Évangile, « Je suis la vérité », Jean 14, verset 6.
Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. »
La vérité demeure en nous, puisque l'Esprit habite en nous et qu'il est vérité. Il n'est pas mentionné dans cette courte épître, mais il est impliqué dans ses paroles. Il est la vérité au-dedans de nous, subjectivement. Il ne parle pas de lui-même ou de par lui-même, mais il glorifie Christ qui est la vérité, et prenant de ce qui est à lui, il nous le communique. Ainsi chaque croyant étant habité par l'Esprit a la vérité demeurant en lui. C'est un immense privilège et une protection efficace dans un monde d'erreurs. Ce fait nous amène à la conclusion que le discernement et le refus de la mauvaise doctrine n'est pas en premier lieu, pour le croyant, une affaire d'intelligence. Cela relève tout d'abord de ce que nous pouvons appeler l'instinct spirituel. L'intelligence seule égare même les vrais croyants. Toutes les erreurs qui ont affligé l'Église au cours des siècles ont été lancées par des hommes très intelligents. D'autre part, des croyants très peu instruits ont pu dire, lorsque de fausses doctrines leur étaient présentées, « Je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment que c'est entièrement faux, bien que je ne comprenne pas les idées qu'on veut m'inculquer et que je ne sois pas capable de les réfuter. » On comprend que l'apôtre écrive les instructions de cette épître à une dame et à ses enfants. C'est un fait aussi, et que Dieu en soit remercié, que la vérité sera avec nous à jamais, puisque Christ est la vérité objectivement, et que nous ne serons jamais séparés de lui. La vérité, aussi bien que la grâce, sont pleinement apparues lorsque le Seigneur Jésus est venu. En lui est parfaitement manifesté tout ce que Dieu est. En lui, la lumière et la vérité brillent sur toute chose. Les ténèbres, l'erreur et la fiction disparaissent. En tournant nos yeux vers Jésus, nous contemplons celui en qui la vérité est personnifiée. La vérité est avec nous pour être considérée et admirée avec adoration. Elle est la norme par laquelle tout peut être éprouvé. Ceci est d'une grande importance pour nous actuellement, pendant que Satan, le trompeur, est encore en liberté. Nous avons toujours besoin d'avoir la vérité personnifiée devant nous, et le Seigneur Jésus sera avec nous pour toujours. Dans les situations critiques que nous pouvons rencontrer, n'oublions pas que lui, parce qu'il est la vérité, est le test pour tout ce qui nous est présenté en matière de doctrine, et que l'esprit qui demeure en nous, qui forme notre sentiment spirituel, est également la vérité. Christ étant la vérité placée objectivement devant nous, toute l'erreur dont Satan est l'instigateur est dirigée contre lui, d'une manière directe ou indirecte. C'est pourquoi sa gloire est pleinement dévoilée au verset 3. Jésus n'est pas seulement Seigneur et Christ, mais aussi le Fils du Père. C'est ici le seul passage où cette expression apparaît, bien qu'il soit fréquemment appelé le Fils de Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a plusieurs familles dans le ciel et sur la terre, comme nous le voyons en Éphésiens 3, versets 14 et 15.
C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre.
Mais le Seigneur Jésus est seul à avoir la place suprême de Fils du Père, l'objet suprême de son amour. Voilà qui il est, Un peu plus loin, dans l'épître, nous verrons ce qu'il est devenu. L'apôtre était grandement réjoui car il avait trouvé des enfants de la dame élue marchant dans la vérité. Il ne se bornait pas à confesser la vérité et à la retenir, mais ils y marchaient. Leurs voies et leurs activités étaient gouvernées par elle. Le Père lui-même avait commandé cela. Sa vérité nous est parvenue, afin que nous soyons conduits par elle. Nous ne pouvons lui plaire sans cela. Alors, se tournant vers la dame élue, l'apôtre la supplie de poursuivre dans cette même direction, ayant en vue l'instruction qu'il va lui donner quant à ceux qui propagent l'erreur et non la vérité. Tout d'abord, au verset 5, il insiste sur le grand commandement que nous nous aimions les uns les autres. C'est un commandement qui nous est déjà très familier si nous avons lu la première épître. L'apôtre répète ici que ce n'est pas un nouveau commandement, quelque chose qui vient d'être introduit. C'est le commandement que nous avons eu dès le commencement, dès le premier instant où la vraie lumière a commencé à briller en Christ. L'amour de Dieu a été manifesté en Christ, et il réclame et produit l'amour en ceux qui en sont les objets. Mais l'amour se manifeste pratiquement dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Il peut y avoir de l'amour sur les lèvres sans obéissance dans la vie pratique. Mais l'amour dans le cœur doit produire l'obéissance dans la vie pratique. En particulier, le commandement d'amour est que nous marchions, et que nous marchions continuellement dans tout ce qui nous a été révélé dès le commencement en Christ. Le danger était que, sous divers prétextes spécieux, certains soient entraînés à adopter des idées étrangères à ce qui avait été dès le commencement. Au verset 7, Jean est très clair à ce sujet. Plusieurs sont sortis dans le monde, des gens qui n'étaient rien d'autre que des séducteurs. Vous remarquerez qu'il ne dit pas qu'ils sont sortis dans l'assemblée, mais dans le monde. Il fait probablement allusion aux mêmes personnes que celles contre lesquelles il nous a mis en garde au chapitre 2 de sa première épître. Ceux-ci, disait-il, sont sortis du milieu de nous, abandonnant toute prétention d'être liés à l'assemblée. À ce qu'il paraît, ils avaient tourné le dos à l'assemblée de Dieu et étaient partis dans le monde comme missionnaires d'une lumière plus grande que toute celle que l'assemblée a jamais possédée. Conduits par les puissances des ténèbres, ils étaient devenus les héros de notions qui n'étaient qu'un savant mélange de philosophie païenne et de vocabulaire chrétien. Ils parlaient toujours de Christ, mais leur Christ n'était pas le Christ de Dieu. Au cours des siècles du christianisme, bien des notions de cette espèce ont été mises en avant, mais la première en date est celle qui est mentionnée ici, la négation de Jésus-Christ venu en chair. Ce point particulier est également mentionné au début du chapitre 4 de la première épître. En considérant ce passage, nous avons vu que cette négation concerne à la fois sa déité et son humanité. Le fait qu'il soit venu en chair établit qu'il est vraiment un homme, et le fait qu'il ait déjà existé auparavant de manière à pouvoir venir sous cette forme montre qu'il était plus qu'un homme, qu'il était Dieu. La non-confession de la vérité quant à Christ prouvait que ces propagandistes étaient des séducteurs et des antichrists. Le verset 8 contient une chose qui doit faire réfléchir ceux qui œuvrent dans la parole et dans la doctrine. Si les croyants dont ils se sont occupés se détournent de la vérité, ils ne peuvent s'attendre à une pleine récompense dans le jour à venir. Leur récompense est liée à la fidélité et à la prospérité de ces croyants. Cet avertissement de Jean nous rappelle les paroles remarquables de Paul en acte 20, verset 31.
« C'est pourquoi veillez, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. »
Cependant, le verset 8 est une parenthèse. Le verset 9 reprend le fil du verset 7. Ces séducteurs antichrétiens ne demeuraient pas dans la doctrine de Christ. Ils pensaient mener en avant vers des choses nouvelles et meilleures. Ceci est pleinement développé aujourd'hui dans ce qu'on appelle le modernisme. Le moderniste croit que la religion ou la théologie est une science humaine qui, comme toutes les autres sciences, ne doit pas stagner, mais avancer avec son temps et avec l'augmentation des connaissances humaines. Par conséquent, il avance avec assurance vers ce qu'il conçoit comme étant une plus grande lumière. Pour le moderniste convaincu, aucune doctrine n'est sacrée, et ainsi il n'y a pratiquement aucune doctrine de l'Écriture qu'il laisse intacte. Il y a des formes de modernisme qui ne seraient même pas qualifiées de ce terme dans le monde religieux, et à cause de cela, ce ne sont pas les moins nuisibles. Elles peuvent, pour le moment, ne mener en avant que sur certains points particuliers. Mais c'est l'idée même de mener en avant qui est fausse. S'il peut y avoir un développement sur certains détails de la foi, pourquoi pas sur tous? Il doit, bien sûr, y avoir une croissance dans notre compréhension de la vérité. C'est une chose complètement différente qui est affirmée et soulignée clairement dans le chapitre 2 de la première épître. Le petit enfant doit devenir un jeune homme, et avec le temps, le jeune homme doit devenir un père. Il s'agit là d'une amélioration de la compréhension de ce qui a été enseigné dès le commencement. La foi chrétienne est divine. Elle est venue de Dieu, et par conséquent ne peut être ni améliorée ni développée. Retenons très fermement cela. Il est évidemment possible de retenir le fait que la vérité est venue de Dieu, et pourtant de ne pas demeurer dans la doctrine de Christ. C'est ce qui arrive si la foi simple est noyée par l'intellectualisme et le raisonnement. Ce danger menace spécialement ceux qui se préoccupent plus de parler de la vérité que de marcher dans la vérité. Dans les faits, cela peut mener au même abandon de la doctrine du Christ. Celui qui s'égare de cette façon n'a pas Dieu. Il n'a ni le Père ni le Fils, car il est impossible d'avoir l'un sans avoir l'autre. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est-à-dire dans la vérité, a les deux. Pour qu'il y ait obéissance au commandement, ce commandement entendu dès le commencement, afin que nous y marchions, verset 6, il doit y avoir un refus catégorique de tout ce qui nie ou ne confesse pas la vérité quant à Christ. C'est ce que le verset 10 montre très clairement. Le refus du mal et de l'erreur n'est pas incompatible avec un amour de qualité divine. Au contraire, il en est l'expression. Il en est ainsi parmi les humains. Lorsque des parents ont un amour véritable pour leur enfant, cet amour s'exprime aussi bien en le protégeant de ce qui le mettrait en danger qu'en lui fournissant tout ce qui lui est bénéfique. Ainsi même cette dame et ses enfants ne devaient rien avoir à faire avec un homme venant à eux et n'apportant pas la vraie doctrine de Christ. Ils ne devaient pas le recevoir dans leur maison, ni même le saluer. Ils devaient lui opposer le refus le plus complet possible. Il est très frappant qu'une telle action soit demandée à une dame et à ses enfants. Souvent, ces personnes sont considérées comme ayant une responsabilité moindre dans de telles affaires. La conclusion à tirer de cela est évidente. Il s'agit d'une responsabilité qui incombe à chacun de nous individuellement et que nous ne pouvons pas mettre de côté impunément. Il ne nous est pas demandé de juger de l'état spirituel de celui qui vient. Nous devons seulement juger de la doctrine qu'il apporte. Le problème n'est pas de savoir s'il est bien ou mal instruit dans les détails dispensationnels, prophétiques ou autres. Il s'agit simplement de ceci, apporte-t-il ou n'apporte-t-il pas la doctrine de Christ? Une femme chrétienne et ses enfants sont supposés capables de discerner cela et d'agir en conséquence. Notez aussi que l'homme qui vient est un propagandiste, un prédicateur itinérant. Il vient à votre porte comme le héros de quelque chose de meilleur que ce que vous connaissez. Le cas présenté ici n'est pas celui d'un croyant ayant une faible compréhension de la vérité et se laissant enlacer par une erreur quant à Christ. Il arrive souvent aujourd'hui, alors que de multiples erreurs sont propagées, que de vrais croyants soient troublés, ballotté et tombe sous l'influence de ses erreurs. De telles personnes doivent être traitées différemment, comme on le voit par exemple en Galates 6, verset 1er,
Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté.
Ou en Jude 22 et 23.
Et les uns qui contestent, reprenez-les, les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair.
Lorsqu'un homme prêchant un faux Christ vient à notre porte, le refus de cette personne et de sa doctrine ne peut être trop entier. Le saluer, c'est participer à ses mauvaises œuvres, et nous ne devons pas nous prêter à la moindre association avec elle. Ceci nous enseigne que la doctrine de Christ est une chose extrêmement précieuse. C'est la pierre angulaire de notre très sainte foi. Si on l'ébranle, tout s'écroule. Elle doit être gardée à tout prix. Le verset 12 confirme cela. Il y avait beaucoup d'autres choses que l'apôtre avait à dire à la dame élue et à ses enfants, des choses d'ordre spirituel, nous n'en doutons pas. Regardant en avant, il voyait le moment, relativement proche, où il pourrait leur parler de vive voix, une manière de faire bien meilleure. Mais le sujet qui motivait sa lettre n'admettait aucun délai. Même si le papier et l'encre n'étaient qu'un moyen limité, il était urgent de les mettre en garde pour la défense de la vérité. Remarquons encore ceci. Bien que Jean ne mentionne pas son nom, il parle de lui-même comme étant l'ancien. Ainsi l'Épître nous fournit un exemple du genre de service qui était effectué par les anciens dans les temps bibliques. Ils exerçaient une surveillance d'ordre spirituel. Ils conduisaient ceux qui étaient moins instruits dans les voies du Seigneur en donnant des indications pratiques. Ils paissaient le troupeau de Dieu. L'apôtre Jean, par cette lettre courte mais inspirée, exerçait des soins de berger envers la dame élue et ses enfants, les protégeant des ravages que certains loups de Satan étaient prêts à faire.